Raphaël Thuin vient de nous rejoindre en plateau, directeur des stratégies de marché de capitaux chez Tikehau Capital. Bonjour Raphaël, avec vous on va regarder un petit peu ce qui s'est passé sur les marchés ces dernières semaines et puis surtout envisager la deuxième partie de l'année. Trimestre exceptionnel pour le Nasdaq hein, qui a connu une hausse quasi ininterrompue entre fin mars et début juin. Bon, depuis début juin il y a une petite pause mais on voit quand même là sur les deux dernières séances que l'indice a repris plus de 3%. Et puis dans le même temps, l'Europe qui a été à nouveau jouée mais d'une façon assez timide.
Oui, effectivement, on a vu des fracturations finalement dans le marché assez remarquables. Quand on regarde dans le rétroviseur un petit peu sur le premier semestre, on a eu deux forces qui sont un petit peu opposées. Une force négative d'une part avec la géopolitique, l'énergie, l'inflation, les taux d'intérêt qui sont remontés. Ça a pesé sur les performances. Mais face à ça, on a la santé des entreprises, la bonne saison de résultats, en particulier au premier trimestre, la tendance IA qui se confirme. Et finalement, ce sont ces deux forces qui ont un petit peu fait naviguer le marché à la baisse très significativement en mars, évidemment, et puis sur ce deuxième trimestre dans un rebond qui est historique. Donc effectivement, ça a été un trimestre et un semestre très volatile. Aujourd'hui, on va bien regarder évidemment devant nous ce qui va se passer sur la tech, sur l'IA, ce leadership de la tech. On est en train un petit peu de se poser des questions aujourd'hui. On voit une forme de fragmentation entre, d'une part, les vendeurs de pelles qui, effectivement, ont eu des performances étonnantes. Quand vous regardez l'indice des semi-conducteurs aux États-Unis, c'est 100% de performance.
Le fameux SOX,
avec en particulier une performance qui a été très tirée au deuxième trimestre. Et puis à l'inverse, si vous regardez les hyperscalers, vous savez, ces grosses techs qui dépensent énormément, elles ont beaucoup moins bien performé. Les Mag 7, je crois, sont à peine positives sur l'année. Donc on voit une forme de fracturation de ce discours-là. Et la question qui va se poser pour les investisseurs tech au deuxième semestre, c'est dans quelle mesure on pourrait avoir un rééquilibrage des performances entre les vendeurs de pelles d'une part et ceux qui font ces dépenses d'investissement d'autre part.
Très concrètement, Microsoft est à moins 20% depuis le début de l'année, plus bas de 2023. Meta, la maison mère notamment de Facebook, perd 13% depuis le début de l'année. Nvidia et Apple sont à plus 6, c'est-à-dire en dessous des indices américains, quand Alphabet est à plus 12. Donc très concrètement, ce ne sont pas ces GAFAM, ces Magnificent Seven qui ont tiré la cote. C'est quand même particulier, sachant qu'elles sont, on en parlait il y a un instant avec les équipes d'Amundi, elles sont très présentes dans les indices, notamment et dans les ETF.
Oui, tout à fait. Elles n'ont pas tiré la cote. Alors la question qui va se poser pour nous, c'est dans quelle mesure cette extension entre les vendeurs de pelles et les GAFAM peut vraiment perdurer. Là, on est sur des différentiels de valorisation qui sont étonnantes. Nvidia, par exemple, s'échange au plus bas niveau depuis quasiment 10 ans en termes de multiples de valorisation. Donc, ça attire l'œil. Globalement, ce qu'on peut dire sur le premier semestre, c'est que les investisseurs ont suivi les cash flows. À savoir qu'ils sont allés vers là où les dépenses d'investissement se dirigeaient, au détriment de ceux qui les faisaient, ces dépenses d'investissement, à savoir les hyperscalers. À ce niveau, aujourd'hui, on sent une forme de consolidation et c'est vrai qu'il n'en faudrait pas beaucoup pour voir les hyperscalers peut-être reprendre de la performance, peut-être une simple inflexion de discours, par exemple lors du second trimestre d'annonce de résultats, où on pourrait peut-être enfin ouvrir la porte à moins de dépenses, une forme de consolidation, peut-être un retour vers un peu plus de cash flow pour ces entreprises, à des niveaux d'étirement de valorisation aujourd'hui tels. On peut tout à fait imaginer que ce soit le cas sur le second trimestre. Donc, on n'abandonne pas complètement les hyperscalers pour le second semestre.
Et puis, bien sûr, il y aura la IPO probable d'Anthropic et puis également de OpenAI. Hein. Là aussi, ce sont des moments très attendus. Et d'ailleurs, c'est ce qui pèse en partie sur Microsoft, hein, qui détient une partie dans OpenAI, dans ChatGPT. Bon, l'Europe, au milieu de tout cela, a été un petit peu délaissée pendant le conflit. Et puis là aussi, elle s'est bien reprise. Néanmoins, quand je regarde le CAC 40 depuis le début de l'année, alors certes, il faut prendre en compte les dividendes, mais hors dividendes, on a seulement plus 3. Hein. Donc, comme l'an dernier, Paris n'est pas le bon élève.
Pas le bon élève. Alors, c'est vrai qu'il y a une déception sur l'Europe au premier semestre. Souvenez-vous, début d'année, c'était un petit peu le positionnement consensuel. On aimait bien l'Europe, elle était moins chère. On trouvait que dans une année de stimulus fiscal en Allemagne, c'était attractif de mettre des industriels du cycle dans le portefeuille. Et c'est vrai que l'indice européen est plus cyclique que l'indice américain. Il y avait beaucoup de raisons de penser que finalement, l'Europe pourrait tirer son épingle du jeu cette année, en termes de performance. Et puis, patatras, on a eu l'Iran, la remontée des prix du baril. Tout ça a effectivement affecté les indices européens très fortement. La question qui se pose aujourd'hui dans un scénario de désescalade en Iran, c'est est-ce que les fondamentaux du buy European, les fondamentaux d'une surperformance éventuelle des indices européens sont en place? Il y a un vrai débat qui se pose aujourd'hui, le questionnement autour de l'impact des prix du baril du premier semestre sur la durée, sur l'économie européenne, un questionnement autour de la Banque Centrale Européenne et un potentiel continuation de hausse de taux. D'un autre point de vue chez Tikeo, on aime bien cette position Europe, on trouve qu'elle est attractive, les entreprises européennes génèrent du résultat, on aura une croissance à deux chiffres probablement des bénéfices cette année pour les entreprises européennes. Le stimulus fiscal allemand qui a mis du retard à être déployé va probablement commencer à faire effet au second semestre. Ça aussi, c'est intéressant. Et puis, encore une fois, les valorisations, c'est pas anodin. Elles sont revenues à des niveaux proches des moyennes historiques. Elles sont beaucoup moins exigeantes. Ça permet de diversifier aussi de la thématique tech. Bref, avoir de l'Europe aujourd'hui en portefeuille, ça fait sens.
L'Eurostox gagne 8% depuis le début de l'année. C'est quand même nettement mieux que le CAC 40. L'Eurostox qui peut dire merci à ASML qui gagne quand même 70% depuis le 1er janvier. Bon, vous voyez que même dans l'Eurostox, il y a de la tech, il y a des valeurs liées à l'intelligence artificielle. Si aujourd'hui on a envie de remodeler un petit peu son portefeuille, après vous l'avez dit, le x2 sur l'indice SOX, quels sont les secteurs qui peuvent aujourd'hui être intéressants? C'est vrai qu'au mois de juin, c'était un petit peu le retour de la santé, le retour des secteurs bancaires. C'est des secteurs qui, alors pour la banque, ont été stars l'an passé, et puis pour la santé, qui ont été délaissés.
Oui, effectivement. Ce qu'on constate depuis quelques semaines, on va voir si c'est une thématique qui peut perdurer, c'est l'élargissement du leadership. On a aujourd'hui d'autres secteurs, d'autres valeurs qui prennent le relais de la performance au-delà de la tech, au-delà de les US. Ça, c'est une bonne nouvelle pour l'Europe déjà, donc on va voir. Mais nous, on a envie d'imaginer que ça puisse continuer. Ça, c'est une première chose. En termes de secteurs, qu'est-ce qui attire l'œil? Effectivement, les défensives ont beaucoup sous-performé. Vous citiez la santé, c'est un bon exemple. En termes de multiples de valorisation, on est très très bas aujourd'hui sur les secteurs de la santé.
Malheureusement, c'est pas nouveau. Cet argument n'a pas fonctionné ces dernières semaines. Est-ce que là, ça peut enfin être le moment?
Écoutez, en tout cas, ça permet d'avoir une forme de matelas de sécurité, de filet de sécurité sous soi en termes d'exigence de valorisation. On aime bien la défense aussi. La défense, elle a beaucoup sous-performé cette année en Europe. Il y avait une forme de consolidation après 3 ans de surperformance rocambolesque, 230% de performance pour la défense européenne sur 3 ans. Et aujourd'hui, les valorisations aussi ont baissé. On n'a pas le sentiment que la dynamique fondamentale de ces entreprises de défense est beaucoup infléchie, voire même on peut voir une forme d'accélération sur certaines d'entre elles. Donc la défense, on aime bien. Et puis effectivement, remettre des industriels, du cycle, y compris d'ailleurs les industriels exposés à l'IA. Vous savez, celles qui sont dans cette vague data center qui est en train d'arriver en Europe. Il y en a en Europe qui sont très bien exposés. On va penser à Schneider, à Air Liquide, à Legrand, dans les thématiques d'électrification, de refroidissement des centres de données. Tout ça, ça permet d'avoir plus de cycles dans le portefeuille et c'est peut-être un bon moment pour se faire.
La partie Asie, pour terminer, là aussi, on est sur des performances qui sont très disparates. On en parlait en première partie d'émission avec des grandes valeurs tech chinoises qui n'ont pas du tout profité de l'envolée des valeurs liées à l'intelligence artificielle. Quand vous regardez les Tencent, les Alibaba, etc. Puis à l'inverse, les petites boîtes chinoises, où là, ça explose considérablement. Retard également encore sur l'Inde, qui est encore particulièrement boudée. Et puis alors, on ne va pas refaire toute l'histoire, mais du côté de Séoul, bien sûr, on a le Kospi qui a fait x2.
Oui, effectivement, très disparate côté Asie. La Chine sous-performe maintenant de manière significative. La consolidation qu'on voit sur les grosses tech US, on la voit aussi en Chine. Alibaba est en baisse de 30%, il me semble. Donc ça, ça a été un premier facteur négatif sur la Chine. Deuxième facteur négatif, toujours le même, la consommation, la demande intérieure, elle est moribonde et globalement, ça a handicapé aussi beaucoup l'indice chinois. Donc là, attention. En revanche, sur les autres indices, on va dire d'Extrême-Orient, que sont la Corée ou le Japon aussi, qui a fait plus de 40% de performance, là, effectivement, on voit un momentum très fort. Il est très centré autour de la tech, en particulier, vous l'avez dit, pour la Corée. Donc là, il y a des niveaux de concentration de performance qui interpellent. Là où le Japon, globalement, a davantage à faire valoir en termes économiques, en termes d'exportation avec un yen très faible. Donc là aussi, on s'attend à beaucoup de dispersion sur l'Asie au second semestre.
Merci beaucoup, Raphaël. Tu vas nous accompagner ce matin. Je rappelle que vous êtes directeur des stratégies de marché de capitaux chez Tikeo Capital.